C'est moi qui vous remercie. Je suis très heureux, à plusieurs titres d'ailleurs, d'être ici. En effet, j'ai servi pendant de très belles années de ma vie à la ville de Paris. Il me retrouvait dans le salon Jean-Paul Laurence, un artiste que par ailleurs j'admire beaucoup, me touche énormément. Effectivement, j'ai une expérience italienne et dans quelques jours, enfin un vendredi, je publie un roman qui s'appelle « Adieu à l'Italie ». On ne pouvait pas être plus dans l'actualité de ce colloque. Voilà. Je remercie aussi Jean Musitelli d'avoir accepté l'intervention. Donc, mon intervention, évidemment, j'espère, ne va pas être en décalage ou incohérente avec ce qui s'est dit, et puisque en fin de compte, je n'ai eu que peu de temps pour la préparer, mais je vais essayer peut-être, en m'appuyant sur l'expérience qui a été la mienne, aussi bien à Paris municipalité, Paris État, qu'à Rome, d'essayer de dresser une sorte de comparaison entre la problématique de la politique culturelle telle que je la vois entre ces deux villes. Et la première, il y a un point commun, avec beaucoup de différences ensuite, un premier point commun qui m'a toujours frappé, c'est la pluralité des acteurs qui sont partie prenante à une politique culturelle dans ces deux capitales. Du côté de Paris, pour commencer par celle-ci, vous avez naturellement le poids de l'État qui est historiquement très fort et qui se traduit entre autres par l'importance des grandes institutions qui y sont logées dans tous les domaines, de l'enseignement jusqu'aux grands musées en passant par les théâtres, opéras, bibliothèques. Le rôle de l'État comme tutelle de la ville, extrêmement vigilante à son égard, puisque Paris n'a de maire que depuis moins de 40 ans, et donc une sorte d'État mineur, au sens où minorité civile, dans lequel la municipalité a été tenue pendant très longtemps, jusqu'à une date extrêmement récente. Donc la ville, en tant que municipalité, est le deuxième acteur important et qui, depuis que le statut de Paris s'est aligné sur le droit commun, acquiert une importance croissante. Et il faudrait également mentionner, plus récemment, mais c'est très frappant aussi, dans certains domaines, le rôle d'un secteur culturel privé, avec par exemple la floraison de musées privés, de galeries d'exposition, de musées avec des collections ou de galeries d'exposition, comme la Pinacothèque près de la Madeleine, qui maintenant sont des acteurs qui comptent dans la cartographie. Alors, à Rome, évidemment, la situation est très différente, même s'il y a des similitudes. Il y a évidemment le rôle du Vatican, je ne parle pas de l'influence qu'il peut avoir sur les choix politiques ou nationaux ou municipaux, mais en tant qu'acteur culturel par son patrimoine, monumental ou muséal, est évidemment considérable. Des acteurs étrangers, comme on en a parlé, l'Académie de France à Rome, la France a la chance d'avoir un patrimoine immobilier, enfin, ou d'être logé dans un patrimoine immobilier de premier ordre, et d'être elle-même un acteur qui, avec des hauts et des bas, important de la vie culturelle locale. J'étais d'ailleurs il y a 3 jours au jury de soutenance d'une thèse qui portait sur une période peu connue, peu étudiée en tout cas, de l'histoire de la Villa Médicis, qui va de la fin de la Première Guerre mondiale à 1971, la disparition officielle du prix de Rome et l'interaction très complexe entre cette enclave française et l'Italie, évidemment des contextes extrêmement opposés entre la période fasciste et l'immédiate après-guerre. Mais cette pluralité des acteurs pose nécessairement la question de la manière dont l'un se positionne par rapport aux autres. Et il n'y a pas de schéma préétabli. Ce schéma peut évoluer avec le temps. Il n'y a pas, prenons l'exemple de Paris, il n'y a pas une division du travail, si je puis dire, une répartition des compétences entre la ville et l'État qui serait clairement établie. Bien sûr, la ville, alors il y a des spécialisations qui ne sont pas contestées. La ville de Paris a, avec le musée Carnavalet par exemple, ou la bibliothèque historique de la ville de Paris, des institutions patrimoniales consacrées à la ville, et c'est parfaitement légitime, mais là aussi un musée d'art moderne. Dans l'ancien musée national d'art moderne à Chaillot, elle a un musée des beaux-arts, le Petit Palais, elle a un théâtre opéra, le Châtelet, un théâtre, théâtre danse, théâtre de la ville. Elle a donc aussi, il y a un chevauchement des compétences qui peut, par certains moments, donner lieu à concurrence ou à émulation. Où l'un peut être appelé à combler les lacunes de l'autre. Je peux citer un exemple, une illustration de ce propos. À un moment donné, vous rappelez, au début des années 90, l'opéra Bastille est passé par une crise assez grave, et le Châtelet, dont le directeur était à l'époque Stéphane Lissner, qui va maintenant, bientôt, prendre les rênes de l'opéra de Paris, y a mené une politique qu'on appellera de prestige, je dis ça sans connotation péjorative, en quelque sorte pour combler ou pallier la crise de l'Opéra de Paris. Exemple inverse, dans le domaine des bibliothèques, la ville de Paris n'a pendant longtemps eu que des petites bibliothèques de quartier. Et ce n'est pas du tout le modèle new-yorkais, par exemple, où vous avez une énorme bibliothèque centrale, la New York Public Library, qui est une des plus grandes bibliothèques au monde, qui est à la fois la Bibliothèque nationale de France, si je puis dire, en taille, et une bibliothèque municipale par la multitude d'établissements annexes qu'elle a dans tout New York. Et tout New York, c'est beaucoup plus que Paris intramuros, comme vous savez. Donc, Paris, la ville de Paris, n'a jamais eu cette bibliothèque centrale, et je crois qu'on a évoqué la création du Centre Pompidou. La bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou joue en quelque sorte le rôle de cette bibliothèque publique au cœur de Paris, mais sans la dimension de solidarité avec les quartiers. Donc, problème, situation évidemment hybride, je dirais, mais qui très largement le fruit de l'histoire. Donc, ce que je veux dire, c'est à Paris comme à Rome, cette interaction entre les acteurs est une donnée permanente, mais les paramètres de l'équation se modifient sans cesse. Et d'où la complexité d'articuler ces différents niveaux les uns avec les autres, sans parler, évidemment, de l'initiative privée qui, elle-même, obéit à sa propre logique. Le deuxième point commun sur lequel je voudrais dire relater un peu mon expérience, c'est le poids du patrimoine légué par l'histoire dans les deux villes. Et ici, sans entrer dans les détails de savoir de qui relève administrativement le patrimoine en question. Tout d'abord, c'est un problème économique majeur. Je l'ai connu ici à la ville de Paris, quand il s'était agi, par exemple, de restaurer de manière méthodique les églises historiques de la capitale. Projet qui a été interrompu, enfin plan que j'avais mis en œuvre avec à l'époque, qui a été interrompu à cause de restrictions budgétaires, mais il y a énormément à faire. Et il en va de même pour le patrimoine parisien, dont l'État à la charge. J'en sais quelque chose puisque un des chantiers de la Bibliothèque nationale, c'est la restauration, enfin, la rénovation de l'ancienne BN, rue de Richelieu. C'est un programme à 250 millions d'euros pour ce qui n'est qu'une partie de la bibliothèque. Donc, des ordres de grandeur financiers qui sont considérables. Et dans lesquels projets de restauration du patrimoine, dans lesquels les autorités publiques n'investissent que si leur destination aussi évolue dans le sens d'une plus grande ouverture au public. Il faut adjoindre aux dimensions traditionnelles cette ouverture. J'illustre ceci par le projet qui est le nôtre pour l'ancienne bibliothèque nationale, enfin les bâtiments de l'ancienne BN, donc la rue de Richelieu, qui, à l'issue de la rénovation, que verra mon successeur, parce qu'on sera en 2018 ou quelque chose comme ça, ne sera plus réservé aux chercheurs accrédités, aux lecteurs traditionnels de la bibliothèque, mais présentera toute une transparence nouvelle sur le plan patrimonial, y compris, puisqu'on parlait de Mazarin, le public pourra accéder librement à la galerie qui porte son nom, la galerie Mazarine, qui dans l'histoire de l'architecture et du décor parisien est un jalon essentiel et en général occulté, enfin qui a été jusqu'à présent occulté pour des expositions temporaires. Voilà, je souligne ce point parce que effectivement l'entretien du patrimoine dans les politiques culturelles d'aujourd'hui s'accompagne toujours d'une politique spécifique en direction des publics, de tous les publics, y compris d'ailleurs des publics défavorisés. Ou... Deuxième point, c'est tout à fait intéressant de comparer, il serait tout à fait intéressant de comparer les doctrines de restauration. Parce que dès qu'on parle de lieux ou de sites, de bâtiments historiques, évidemment, on se situe dans les deux cas sous l'autorité ou sous le contrôle, ici de l'inspection générale des monuments historiques, là de diverses surintendances, et ces autorités élaborent des doctrines qui peuvent d'ailleurs évoluer, qui évoluent de fait avec le temps. Alors, j'ai connu cette expérience de façon très intéressante avec la restauration de la Villa Médicis, pour laquelle, compte tenu de la diversité potentielle des points de vue, avait été institué un conseil scientifique franco-italien pour débattre des grands choix possibles. Et je cite, ça c'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant, la position officielle italienne était que l'on devait, c'est ce qui est appliqué à Rome de façon systématique, hein, rendre à la Villa Médicis l'aspect qui était le sien au moment de sa construction, fin du XVIe siècle, donc la couleur et la nature de l'enduit, non plus les ocres chers à Balthus, mais un enduit de couleur ivoire, très beau, très précieux, qui malheureusement... se salit très vite, c'est un inconvénient. C'était admis, mais il y avait, si vous voyez comment est la villa, sur l'aile en retour, du côté de la Trinité des Monts, avait été aménagée au XIXe siècle pour accueillir les artistes pensionnaires, une galerie extérieure qui permettait à chaque pensionnaire d'accéder à son atelier sans avoir à traverser celui de ses voisins. Et la nécessité fonctionnelle de cette passerelle demeure, mais ça a été un combat acharné, je dirais, pour faire admettre que cette adjonction du XIXe siècle, qui était, même si elle avait été revue, qui était aussi très intimement liée à l'histoire de la villa devenue Académie de France, devait être conservée. Donc, en Italie, il n'y a pas ce qui est compliqué, c'est d'arbitrer entre des points de vue d'autorité qui ont tout un mot à dire sur un sujet. Donc, ce qui peut aboutir à des situations de blocage. Alors, ça arrive ici aussi en France, je ne le méconnais pas. Mais donc, ça a été il y aurait là eu toute une sorte de sociologie administrative intéressante pour arriver à la solution définitive, qui est le maintien de la passerelle, mais modifiée néanmoins pour lui donner un aspect plus discret. Mais je crois que la problématique qui nous est commune, c'est celle de créer dans le créer, comme prendre le titre d'un ouvrage, je crois, d'Andrea Bruno, architecte italien qui a beaucoup travaillé à la rénovation et à la réutilisation de monuments anciens. Créer dans le créer, et donc l'équilibre qu'il convient de trouver entre le respect du patrimoine et la prise en compte des pratiques ou des besoins nouveaux. Je ne développe pas ce thème, c'est un sujet en soi. Je constate simplement, en tout cas en France, à Paris, que peut-être en retour de balancier après la période des années 70, où on a énormément démoli sans discernement, une patrimonialité, une muséification du patrimoine, quelquefois, qui peut aller à l'encontre de la vie, tout simplement, de la vie de ces monuments. Je développe pas ce point, mais je dirais que le retour de balancier se fait dans le sens de la protection au sens le plus radical du terme, c'est-à-dire la conservation, je dirais, intégrale des monuments historiques dans au détriment peut-être d'une certaine créativité. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce qui a été fait au Louvre, par exemple, ça suscitait déjà à l'époque des polémiques, mais que le pouvoir politique, le président, ont surmonté en passant outre. Aujourd'hui, je pense qu'on serait peut-être paradoxalement plus prudent qu'on l'était il y a 20 ans. Donc ça, c'est un point qui donnerait, je pense, lieu à des échanges très fructueux entre Français et Italiens sur la manière dont, héritiers d'un patrimoine dont nous sommes fiers, qui est une source de rayonnement extraordinaire, comment nous pouvons en même temps en faire les vecteurs d'une politique culturelle vivante. Enfin, peut-être troisième point, parce que je crois que je suis peut-être trop long, même en fait. Le rôle des grandes institutions dans la dynamique urbaine. Je crois que ça a été évoqué au moment où, quand vous avez évoqué la création du Centre Pompidou dans une partie de Paris qui était devenue, qui était un terrain vague et dont l'environnement était dans un état de déréliction très, très avancé. Mais ce qui a été le plus frappant, évidemment, et je vis cela au quotidien, c'est la politique en direction de la périphérie du centre historique, l'Opéra Bastille, la Cité de la Musique à la Villette, bientôt la Philharmonie et la Bibliothèque Nationale de France, pour laquelle la ville de Paris, d'ailleurs à l'époque du maire, quand Jacques Chirac était maire, a offert les terrains à l'État, ce qui a permis d'installer, il aurait été très difficile de trouver dans Paris un intramuros ailleurs que là, les terrains nécessaires à l'édification de cet édifice. Alors, évidemment, on voit bien que ces grandes institutions peuvent servir de locomotive à une nouvelle, de moteur d'une nouvelle dynamique urbaine, avec tout ce qu'elles entraînent autour d'elles, à condition évidemment que soient pensés tous les paramètres nécessaires. Les transports en commun, que sais-je, l'infrastructure, que sais-je. Et peut-être aussi ce que Rome avait en tête en créant l'auditorium, le Maxi, enfin le musée d'art contemporain, qui sont donc l'un et l'autre en dehors, assez nettement en dehors même du centre historique, et qui peut-être sont moins, pas toujours facilement accessibles. Cela étant, je peux vous dire que dans l'esprit du Parisien normal, si je puis dire, la Bibliothèque nationale de France, en tout cas le site François Mitterrand, on leur dirait Aubervilliers ou la Garenne-Colombes, ce serait pareil, et ça se voit dans le chiffre de nos expositions. L'exposition de Pardon au quartier Bresson à la bibliothèque, c'est 100 000 visiteurs, là où ce serait 200 ou 300 000 ou plus au centre Pompidou. Donc nous n'avons pas encore compensé, si je puis dire, cette perception de l'éloignement. C'est un point, d'ailleurs, un handicap de Paris. Je crois qu'on a parlé du Grand Paris tout à l'heure. Je vois, par exemple, je citais l'exemple de la New York Public Library pour montrer à quel point la taille de le périmètre, si je puis dire, couvert par une politique culturelle est important. Il est certain que le fait que le Paris intramuros est très limitatif par rapport à ce que pourrait être une politique culturelle qui couvre l'aire urbanisée. Et je n'ai pas cité, d'ailleurs, c'est tout à fait symptomatique, la région Île-de-France parmi les acteurs culturels qui opèrent à l'intérieur de Paris, car de fait, à ma connaissance, elle y est extrêmement peu présente. Voilà. Donc, je crois que c'est important de rappeler que le rôle des grandes institutions, qu'elles soient étatiques ou municipales, est majeur. Et autour des grandes institutions, il se crée tout un écosystème culturel, marchand ou privé, qui peut être très dynamique. C'est ce qui s'est passé autour du centre Pompidou, par exemple, notamment toutes les galeries qui se sont installées à proximité. Encore faut-il que les institutions aient les moyens de leurs ambitions, aient une véritable stratégie. Et de ce point de vue-là, si j'avais un message à mes amis italiens, n'oubliez pas vos grandes institutions et je pense à la Bibliothèque nationale centrale de Rome ou de Florence d'ailleurs. C'est un point. Alors nous sommes au niveau en France extrêmement bien dotés par comparaison, même si maintenant nous sommes engagés nous aussi invités à une petite cure d'amaigrissement. Mais véritablement, ça, je crois que le sens de l'institution est ce qui permet de structurer sur le long terme une politique culturelle qui ne peut se résumer ni au niveau micro, si je puis dire, le petit équipement de quartier, ni aux grandes manifestations éphémères qui ont aussi leur vertu en termes d'animation, mais qui, par définition, ne laissent pas de traces durables. Voilà quelques éléments que je voulais livrer de ma double expérience.